Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dawani wa Makaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halud Mandi.
Chenne Berry. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Bonsoir et bienvenue au Grand Dialogue. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la lutte contre le terrorisme. Un nouveau centre d'alerte précoce sous-régional a été inauguré ce samedi à Bamako. L'objectif est de partager en temps réel des informations et des renseignements entre les 15 pays de la CEDEAO pour lutter notamment contre l'insécurité, le terrorisme. Financé par les États-Unis, le coût des installations est estimé à 2 milliards de francs CFA. Nos invités, Cheikh Aboudou Touré, représentant de la CEDEAO au Mali, Ali Tunkara, sociologue, Mamadou Djouara, sociologue. Je suis Fatmata Togola.
Le Grand Dialogue.
Partager des informations en temps réel, ce centre est un nouvel outil qui pourra permettre d'éviter des attentats terroristes dans l'espace CEDEAO ou encore éviter la propagation d'épidémies. Alors, bonsoir Monsieur Touré, qu'est-ce que ce nouveau centre va faire concrètement ?
Bonsoir, permettez-moi de vous remercier de m'avoir invité à cette émission et de saluer les auditeurs de Radio Tamani. Et pour répondre à votre question, le Centre national de coordination du mécanisme d'alerte précoce et de réponse rapide est un dispositif que nous sommes en train de déployer et qui fait partie intégrante de l'architecture de paix et de sécurité de la CEDEAO. L'architecture de paix et de sécurité de la CEDEAO, c'est tout ensemble de mécanismes, d'organisation, de structures, de pouvoirs qui permet à la CEDEAO de faire ce que nous appelons une lecture quotidienne de la sécurité humaine au niveau des différents États, de percevoir les signes de menaces. Menace sous forme de crise, menace sous forme d'épidémie, menace sous forme d'attaque terroriste, comme on le dit, etc. Et donc de pouvoir réagir dans un premier temps par ce que nous appelons l'alerte. L'alerte veut dire que nous avons la tendance normative qui fait que on peut dire que ce pays est stable. Et il y a des indicateurs que nous cumulons au jour le jour et qui nous permettent à un moment donné de tracer une autre courbe qui montre si cette courbe se rapproche de la tendance normative ou s'en éloigne. Lorsque elle s'en éloigne, ça veut dire qu'il y a un problème qui peut survenir et on alerte en disant qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, il y a la réponse. La réponse est la solution qu'il faut apporter à la menace ou à la série de menaces qui aura été identifiée. Jusqu'ici, l'alerte précoce a été menée uniquement à partir d'Abuja. Nous avons ce que nous appelons l'observatoire de la sécurité humaine, qui est un dispositif électronique avec des correspondants sur le terrain qui collecte au jour le jour des informations sur différents aspects de la vie au niveau du pays. Des éléments d'ordre politique, d'ordre social, d'ordre sécuritaire, d'ordre alimentaire, et d'ordre médical, etc. Et ces informations sont introduites dans le système par le canal de l'Internet. Et une fois que les informations sont introduites, la machine essaie de traduire ces informations sous forme d'images. Selon que la situation est normale, on a la couleur verte. Si la situation commence par inquiéter, on a la couleur orange. Et si la situation est dramatique, on a la couleur rouge. Donc, c'est à partir de là, nous pouvons dire, si un État passe du vert à l'orange, on commence par alerter. Malheureusement, c'est depuis Abuja, on alertait les pays. Mais la réponse souvent ne dépend pas de la CEDEAO. La réponse souvent dépend du pays, principalement. même si l'extérieur, on peut apporter un surplus de soutien, mais il y a un décalage. Lorsque la CEDEAO donne l'alerte, au niveau du pays, on peut ne pas avoir la même réactivité, la même prise en considération. Et donc, au moment où il faut réagir, ça peut prendre du temps. Et finalement, de l'orange, nous aboutissons au rouge.
Mais qu'est-ce qui explique cela ?
Ça explique cela tout simplement parce que souvent on estime que le problème est plutôt lointain. Je vais vous donner un exemple très pratique appliqué au cas du Mali pour nous faire comprendre. Déjà, la CEDEAO, à travers ce système, avait constaté vers fin 2011 que les couleurs demeuraient orange, tendance même à aller au rouge, en fonction de tous les éléments d'information qu'on mettait. Et le problème de sécheresse, les problèmes de manifestations dans les rues, les problèmes au niveau du nord, etc., montraient que le pays était en situation difficile. Les débats difficiles autour du référendum, de la préparation des élections, au point que déjà en janvier, le système carrément passait au rouge. Et donc la CEDEAO a alerté les autorités en disant le pays est dans une situation où il faut faire attention, prendre des mesures conservatoires. Cela a coïncidé avec l'attaque d'Aguel Rock. Et pour la CEDEAO, ce n'est plus l'orange, nous sommes déjà au rouge. Mais jusque-là, la réponse tardait et la CEDEAO a dépêché une mission conduite par le président de la commission, une mission multidimensionnelle, militaire, humanitaire, politique, etc., pour voir avec les autorités quelles sont les mesures conservatoires à prendre. Pour vous montrer la difficulté des choses, lorsque la mission a rencontré les organisations de la société civile, a rencontré les partis politiques, partout les gens disaient il est difficile de tenir les élections parce qu'elles n'étaient pas bien préparées. Nous avions beaucoup d'appréhension. Et donc il y avait, disons, beaucoup d'inquiétudes du côté de la société civile. Dans le même temps, quand la mission a rencontré les autorités d'alors, les hautes autorités ont dit, écoutez, nous avons la situation en main. Et ce qui se passe au nord, par exemple, n'est qu'un problème de retour de fils qui étaient ailleurs, que nous allons maîtriser la situation par le dialogue, etc. Vous voyez le décalage déjà même à l'intérieur du pays entre le discours de la société civile et le discours des autorités. Or, c'est les autorités qui doivent prendre les décisions. Elles étaient plutôt attentistes, rassuraient plutôt que la situation est sous contrôle. La mission était encore sur place quand il y a eu le coup d'État. Voilà pourquoi aujourd'hui, la CEDEAO voudrait tout simplement que tout le mécanisme qui lui permet de lire à distance les signes de menace, de les interpréter, de lancer l'alarme, qu'on puisse les repliquer dans chacun des 15 pays. De telle sorte que, par le même dispositif, avec des informations croisées, aussi bien d'Abuja que d'ici, on a à peu près la même lecture des tendances et on peut supposer qu'à partir de ce moment, le pays lui-même voit les menaces venir et devrait en principe réagir en s'interrogeant sur ce qui a lieu de faire. Donc c'est ce schéma de délocaliser l'alerte pour une réponse plus rapide au niveau du pays qui a amené la CEDEAO à chercher à mettre au niveau des pays un centre qui jouerait donc ce rôle de capter des informations, de les analyser au jour le jour, de faire des rapports aux autorités. Et il y a ce que nous appelons le comité statutaire qui est composé en gros du Premier ministre avec les départements principaux qui concernent la sécurité humaine, allant depuis la sécurité jusqu'à la santé, en passant par la sécurité alimentaire, en passant par l'environnement, en passant par les problèmes de grève, en passant par les difficultés, les catastrophes, etc. Tous ces ministres devraient recevoir les rapports, les lire et savoir que il y a une menace quelconque. Et nous disons de coordination de la réponse parce que ce n'est pas le centre lui-même qui mène les actions, mais le centre amène les décideurs sur place à décider de l'action à mener et à engager le pays tout entier à une réponse rapide. C'est un peu ça le rôle global de ce centre que nous venons de mettre en place ici au Mali. Et c'est le premier des 15 pays qui a été inauguré et qui donc est fonctionnel.
D'accord. Alors, nous venons à vous, M. Duara. Quelle est votre observation par rapport au rôle de ce nouveau centre-là ?
Alors, merci. Je pense qu'il est, difficile d'ajouter quelque chose à ce que le représentant spécial vient de dire tout à l'heure. Je pense que c'est une très bonne chose que ce centre se soit finalement délocalisé à l'intérieur de chaque pays, sinon et se fasse une existence concomitante, à la fois à la CDE, qu'on appelle ça au Nigeria, que dans chacun des pays membres de la CDAO. Parce que, effectivement, non seulement ce centre avait alerté depuis 2011, mais à la lumière de ce que vous dites, je crois que vous corroborez un peu les faits. La société civile aussi au Mali depuis 2011 avait déjà alerté l'autorité à travers plusieurs manifestations, des écrits, des marches, des manifestations, souvent même des tentatives de plaidoyer à travers des rencontres, mais l'autorité est restée oreille sourde vis-à-vis de toute cette alerte. Maintenant, si on peut, à travers ce centre-là, permettre aux autorités d'avoir une lisibilité, mais vraiment concrète, de l'aggravation de la situation secteur par secteur et de façon globale, on est en droit de penser que cela pourrait les amener à avoir une réactivité plus significative. Mais encore une fois, ça ne suffira pas. Je pense que le représentant spécial est d'accord avec moi qu'en dehors du fait d'informer et d'alerter, il y a également d'autres mesures d'accompagnement qu'il faut prendre. D'abord, en termes de dispositifs préparés à intervenir, ça c'est très important parce qu'on a un appareil lourd avec des habitudes anciennes qui résistent et qui ne peuvent pas être bougés juste par le fait de les informer. Donc il faut déjà que la CDAO, dans cette même dynamique, voit dans quelle mesure, au sein de chaque pays, en fonction de sa spécificité propre, on peut mettre en place un mécanisme de réaction rapide, de réponse rapide. Est-ce que vous voyez ? S'il y a ce mécanisme de réponse rapide, alors ça peut faciliter, n'est-ce pas, la mise en marche des machines qui sont souvent lourdes, soit du fait de la situation politique ou alors de d'autres réalités qui sont propres à chaque pays. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Maintenant, pour finir, ce que je dirais, c'est que si ce centre fonctionne effectivement et efficacement et que ces mesures d'accompagnement sont prises, ça peut considérablement contribuer à stabiliser la région.
D'accord. Alors, M. Tunkara, M. Duara vient de le dire tout de suite, si ce centre fonctionne comme il le doit, est-ce que les dispositifs qui doivent être également pris, s'ils sont pris, ça va stabiliser le pays? Que pensez-vous de cela?
Oui, l'existence du centre en soi est une bonne chose. Mais en dépit de son existence, il est quand même honteux que les 15 pays n'arrivent pas à eux-mêmes de les financer déjà. Cela sous-entend en suffisance que il y a lié à la limite des traités, une des fonctions régaliennes de ces différents États à l'étranger, notamment aux États-Unis. Je crois que ça, ça témoigne à suffisance à combien nos États, justement, n'ont pas forcément un problème d'information ou de communication, mais ils sont dans le déni de l'évident. Vous prenez ces différents États qui rythment aujourd'hui les centres, ils sont tous, en tout cas au moins 9 sur 15, sont au rouge. Clairement, le col rouge a pour nom la porosité de nos frontières, le col rouge a pour nom la corruption de ces agents dans ces différents États, le col rouge a pour nom justement la sécheresse aussi, la déforestation. Lequel rouge aussi, pour moi, vous avez quand même un nombre important. Parce que moi, je pense qu'il est très bon qu'il ait les centres, mais dans le même temps, il faut s'interroger sur les causes réelles de l'insécurité, de la montée de l'extrémisme violent. Ces causes sont plurielles. Mais on peut quand même retenir d'emblée que le chômage massif des jeunes, on a beau apporter des appareils sophistiqués, on a beau même acheter des drones, si l'élite politique africaine, notamment celle de la CEDEAO, n'arrive pas à apporter des réponses suffisante à toutes ces demandes nationales, locales, sous-régionales qui me paraissent tout à fait légitimes. Je crois, quelle que soit l'ingéniosité militaire ou en tout cas sécuritaire, cette ingéniosité ne peut avoir d'effet que si seulement si ces attentes nobles sont satisfaites. Je crois qu'il est extrêmement important de ne pas succomber justement à l'émotion. Et comme c'est tout à fait intéressant que les États-Unis, l'Europe, partout quand même tout le monde, les questions sécuritaires aujourd'hui demandent de collaboration, de coopération. Mais en dépit de cette collaboration, de cette coopération, il est aussi important pour les États souverains au XXIe siècle d'arriver à eux-mêmes, hein, d'assurer leur propre sécurité et de partager l'information. Ça, c'est extrêmement important. Si toutefois ces financements arrivent à leur terme, la question que moi je me pose, si ces 15 États n'arrivent pas déjà à se donner la main afin d'avoir les 2 milliards de francs CFA, comment ces États pourront, une fois que les États-Unis ne vont plus se sentir menacés par justement la montée du radicalisme religieux, l'extrémisme violent dans ces pays africains, ils peuvent ne plus le refinancer. Donc finalement, il y a vraiment des inquiétudes qui sont tout à fait légitimes à se faire quant à l'existence de ce centre. Mais dans le même temps, il est aussi important qu'on comprenne que si vous prenez un peu tous ces États qui sont aujourd'hui traversés par l'insécurité, notamment le cas du Mali, du Niger, même du Burkina et d'autres pays également, vous allez vous rendre compte que ce ne sont pas seulement des difficultés liées à l'information ou à la communication. Mais vous avez une élite politique qui nie l'évident. Pourquoi cette élite nie l'évident? Parce qu'elle pense, enfin, elle est en déphasage total avec ces populations. Ce qui fait que c'est très bon qu'il y ait des outils, c'est très bon qu'il y ait des appareils, c'est très bon que l'information soit partagée, mais dans le même temps, je crois que si nous ne nous interrogeons pas sur ces causes existentielles de l'insécurité et du radicalisme, en aucun cas, un centre ne pourrait mettre un terme à la montée de l'extrémisme et du radicalisme religieux.
D'accord, mais est-ce que... D'accord, allez-y.
Oui, en fait, dans la même lancée que Ali, hein, j'allais compléter un peu mon idée du départ. Quand je parlais de mettre en place un mécanisme de réponse rapide, en fait, ça va dans ce sens. Parce que le tentant spécial, tout de suite, quand il a parlé de sécurité humaine. Donc, les différents gaps qui constituent en somme la sécurité humaine. C'est pas simplement l'aspect militaro-sécuritaire. Donc, tout ce qui concerne la santé, l'éducation, n'est-ce pas, l'emploi, tous ces éléments qui sont déterminants pour que la sécurité humaine soit effective. Et pour moi, l'intérêt de cet outil, c'est effectivement que les indicateurs qui vont sortir peuvent non seulement alerter que ça ne va pas, mais précisément dire dans quel secteur ça ne va pas, à quelle proportion. Donc du coup, s'il y a un mécanisme de réponse rapide, ce mécanisme de réponse rapide permet de traduire les menaces en propositions pouvant éventuellement résoudre les problèmes. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est un peu ça le tremplin normal qui doit avoir lieu pour que la connaissance de l'évolution de la situation conduise à la construction d'une réponse appropriée selon les réalités du terrain et non selon une volonté décidée à l'intérieur d'un bureau climatisé en déphasage avec la réalité. Je suis totalement d'accord avec vous parce qu'on sait que nos États ont hérité d'un appareil qui n'ont pas suffisamment réformé, un appareil qui n'était pas un appareil d'État-service, c'était un appareil d'État colonial destiné à dominer, à expolier, à exploiter, et qui, dans ses réflexes, dans ses habitudes, dans sa symbolique, reste toujours étrangère aux yeux des populations et difficilement acceptée par celles-ci. Donc, il y a tout un travail de réforme, de reconstruction et de réadaptation qu'il faut faire. Mais dans l'urgence, je pense que c'est un premier bon pas qui a besoin d'être accompagné par quelques petits pas qui peuvent le consolider. Mais encore une fois, on a en face de nous, comme il l'a dit, le déni de l'évidence qui est encore une épine qu'il faut ôter du pied.
D'accord. Mmh. Alors, Monsieur Touré, Monsieur Diouara vient de parler d'un aspect tout de suite. Est-ce que vous pourrez nous dire si concrètement les résultats ou les messages que ce centre va apporter ou donner au pays, est-ce qu'elles seront précises pour nous parler des domaines spécifiques là où il y a des problèmes?
Bien sûr. Bon, disons que il faudrait séparer l'existence de menaces et ce que le centre peut apporter. Et ça fait deux choses différentes. Quant à l'existence des menaces, je crois qu'il n'y a aucun pays de la Terre qui soit à l'abri des problèmes. Si nous prenons le terrorisme, on va être très surpris de constater que beaucoup de gens meurent du terrorisme dans les pays pauvres. Mais dans les pays, alors qu'aujourd'hui, les pays dits développés, leurs jeunes meurent pas dans le pays, mais vont chercher le terrorisme. Ça veut dire que qu'on soit pauvre, qu'on soit riche, ça ne règle pas le problème a priori, n'est-ce pas? Mais ce qui est fondamental par rapport à ce que nous sommes en train de dire, c'est qu'il y a des phénomènes qui sont presque récurrents, presque chaque année. La question de sécheresse ne devrait pas surprendre
tout à fait
les Africains. La question de l'inondation ne devrait pas surprendre. Même il y a certaines formes d'épidémie, par exemple, qui ne devraient pas surprendre. On sait que de manière cyclique, tout ceci arrive, etc. Mais tout le monde attend. Depuis les dirigeants jusqu'aux populations, qu'on commence par mourir pour réagir. Ce que nous sommes en train de dire ici, la différence, c'est qu'au niveau de centre, cinq domaines de spécialité ont été définis. Vous avez le domaine de la cybercriminalité et la criminalité pure. Vous avez le domaine de la sécurité. Vous avez le domaine de la santé. Vous avez le domaine de la gouvernance. Et vous avez le domaine de l'environnement. Voilà les cinq domaines spécialisés auxquels sont affectés des spécialistes qui n'ont le travail que tous les jours de collecter des informations. Et quand nous disons des informations, la CDAO a développé une base de données de 51 indicateurs allant de la pose de bombes à l'inondation qui se produit, au banditisme, aux querelles entre agriculteurs, etc., aux grèves. C'est des indicateurs très précis. Dès que ça arrive quelque part, les rapporteurs de terrain, ils signalent cela dans le système. Eux ne font que rentrer. Mais le système lui-même a cette capacité de serrer ensuite, de les regrouper en tendance et de dire est-ce que sur le plan social, c'est stable ou pas ? Est-ce que sur le plan de la sécurité, il y a des menaces ou pas ? Cette fois-ci, ce travail se fait sur place au lieu que ce soit fait à partir d'Abuja. Ensuite, la lecture de leurs tendances se fait sur place. Et le compte rendu est fait immédiatement sur place aux hautes autorités. Mais ce qui est nouveau, c'est que ce n'est pas le ministre de l'Agriculture qui va se sentir concerné par exemple, disons, l'invasion de criquets. Mais c'est tout un collectif de dirigeants, dans le cadre de ce que nous avons appelé le comité statutaire, qui va être saisi du fait qu'à tel endroit, des criquets se positionnent pour envahir les champs. Et donc ce n'est pas le ministre de l'Agriculture seul qui est interpellé, mais c'est cet ensemble-là qui doit interpeller le gouvernement. Et à ce moment, le gouvernement devrait savoir quelles sont les mesures pratiques à prendre au plan décentralisé, au plan du pays, mais déjà au niveau international. Je crois que c'est de cette façon qu'il faut voir l'évolution de ce système qui était purement simplement externe au pays. Voilà pourquoi les pays le plus souvent peuvent dire ils exagèrent, ces informations ne voient pas, etc. Cette fois-ci, il n'y a plus ça, c'est sur place que les gens vont le constater.
Donc on peut dire que tous les États membres de la CDAO vont pleinement jouer leur rôle.
Mais De toute façon, c'est un processus qui est en cours. Ceci me permet de revenir un peu sur le centre, comment il est mis en place. En fait, disons que lors des rencontres périodiques Afrique-États-Unis, en 2014 particulièrement, c'est l'Union africaine qui avait senti que le problème de l'alerte était crucial. Parce que tout le monde attend que le danger arrive. Alors qu'on a des moyens de savoir que le danger peut arriver, on peut même le voir venir. Et donc l'Union africaine avait posé le problème globalement de renforcer les capacités des pays à être plus préventifs, etc. Et le président Obama a dit, ben écoutez, la CEDEAO a déjà un dispositif qui fonctionne depuis plus de 15 ans, qui a été efficace. Toutes les crises qui sont apparues dans les pays ont été signalées par la CEDEAO avant. Mais il ne répondait pas. Donc Obama a dit, écoutez, moi je peux aider au moins la CEDEAO à améliorer le système pour que l'information soit beaucoup plus qualitative. Et de ce fait, a dit, nous allons prendre 5 pays pilotes dans lesquels on va créer un centre d'alerte précoce. Ce centre non seulement va continuer le travail traditionnel de collecte et de traitement de l'information, mais le centre aussi sera doté d'un système de géolocalisation qui permet aux pays en temps réel même de lire un certain nombre de choses sur le terrain. Et ce centre va être connecté à une base de données au plan international pour avoir un certain nombre d'informations qui aillent au-delà de ce que le pays lui-même a. Mais le pays va avoir la possibilité aussi de vidéoconférences avec de grands centres où on peut faire des débats sur les questions de sécurité. Donc voilà, c'est ce dispositif qu'on a mis en place. Et le Mali a été très proactif. Il a été aidé. Les Américains ont dit tout simplement, le pays doit fournir un centre. Le pays doit fournir le personnel. Les Américains n'ont fait que financer l'équipement. Et ceci va se faire dans les 5 pays. Je crois que 5 pays avaient été retenus. Vous avez le Mali, vous avez le Libéria, vous avez le Burkina Faso, vous avez la Guinée-Bissau, n'est-ce pas, qui est aussi en mouvement, et vous avez le Nigeria. Donc, ces centres vont se mettre en place, mais les chefs d'État ont déjà décidé que les autres pays doivent mettre en place par leurs propres moyens. Je ne pense pas que la dépendance financière soit une contrainte en soi. Si je prends le cas du Mali, le Mali a recruté des fonctionnaires et il y a des indemnités compensatoires qui font que le pays est en mesure de les intégrer sans trop de problèmes. Les Américains ont tout simplement dit, pour aider les pays à prévoir cette relève, pendant la durée de projet, ils vont financer le personnel, ils vont équiper le centre, mais il faut savoir que déjà la prise en charge par le Mali est déjà effective, parce que le Mali a déjà voté un budget d'investissement qui lui permettra d'ici demain de prendre la relève sans trop de difficultés.
D'accord. Alors, M. Tunkara, est-ce que vous pensez que l'avenue de ce centre-là est une solution à la crise sécuritaire ?
Difficilement. Pour preuve, si vous regardez toutes les polémiques qui ont eu lieu autour de la révision du projet de la révision constitutionnelle au Mali, tous les signaux étaient au rouge. En dépit de ces signaux rouges, la Cour constitutionnelle a quand même dit clairement que l'insécurité était résiduelle. C'est pour vous dire à combien ce n'est pas un problème d'information, mais c'est plutôt, sommes-nous, dans les dénis de la réalité, en fait. Et c'est très intéressant qu'il y ait des fonctionnaires maliens, des spécialistes de ces différentes thématiques du sous-centre, mais ce n'est pas un problème de spécialité ou un problème d'expertise qui manquerait pour le cas du Mali. Mais c'est plutôt comment faire en sorte qu'il y ait une sorte de maillage entre le réel et l'officiel, en fait, si vous voulez. Le travail de prévention, c'est ça le réel. Mais l'officiel, ce sont toutes ces rhétoriques politiques qu'on entend au quotidien, qui nous font état d'un retour de la paix, qui font état justement d'une sécurité, en tout cas d'une délivrance des services sociaux de base. C'est pour vous dire que les élites politiques africaines ont beau être outillées en termes d'information, en termes de communication, elles ont du mal justement à rompre avec ses habitudes qui légitiment d'ailleurs le pourquoi elles arrivent à s'accrocher au pouvoir et le pourquoi elles arrivent justement à se distancer ainsi de leur population. Donc c'est pour vous dire que ce soit au Mali ou au Niger, au Tchad et d'autres pays membres de la CEDAW, ce ne sont pas des déficits liés à la communication qui expliqueraient le pourquoi de la recrudescence, de la rébellion ou de l'insécurité dans ces différentes localités concernées aujourd'hui. Mais ce sont plutôt des pratiques qui ne sont pas orthodoxes, lesquelles pratiques beaucoup de fonctionnaires font l'objet. Notamment, vous prenez les chefs, les responsables militaires. Vous allez dans nos différents postes de contrôle, que ce soit au Mali, au Niger, au Burkina. Mais les agents qui sont devant ces différents postes-là ne se soucient que du racketage des usagers. C'est pour vous dire que les gens s'en moquent de l'information dans ces pays africains. Et tout ce qui les préoccupe, à comment rendre son quotidien meilleur. Donc, si vous voulez, ce souci de rendre la conscience collective aisée traverse peu l'élite politique africaine. Donc je crois que c'est tout à fait une initiative salée de ça, il ne faut pas le nier. L'idée en soi est bonne. Mais sauf que, comment faire en sorte que l'idée puisse se concrétiser? Le centre, son rôle fondamental, c'est d'informer justement à qui des droits. Effectivement, je suis persuadé que le centre doit continuer à informer, mais une fois informé, comment faire en sorte que l'information obtenue soit opérationnalisée? Je crois que c'est à ce niveau que ceux qui sont aux commandes ne veulent pas consentir d'efforts. Ils savent pertinemment ce qui se passe aujourd'hui dans les différents États, à comment aussi à y apporter des solutions durables. Mais nous sommes dans un déni total. On va vous dire dans les textes de la CEDAW qu'un Malien peut se rendre au Sénégal sans aucun souci, et vice-versa, ou un Nigérien peut se rendre en Côte d'Ivoire sans souci. Mais franchement, traverser ces différentes frontières, vous allez voir quelles sont ces pratiques non orthodoxes auxquelles les agents font l'objet. Les populations sont raquettes au longueur de la journée. Ces mêmes populations ont du mal à avoir accès à ces services fondamentaux, l'éducation, la santé et tout ce qui s'en suit. C'est pour vous dire qu'on a beau mettre en place des mécanismes de prévention, si nous n'arrivons pas justement à apporter des réponses claires et tout à fait aussi durable à toutes ces demandes sociales légitimes, l'accès à l'éducation, surtout l'accès à la justice sociale. Hein, tous ces États aujourd'hui, vous allez demander à toute la CEDAW, on va vous dire que même le Togo n'est pas au sac de rouge, mais en tout cas, on n'a pas besoin de passer par les sciences politiques pour se rendre compte aujourd'hui qu'au Togo, les signaux sont au rouge. Mais vous allez demander aux chefs d'État, ils vont nier, ils vont vous dire qu'effectivement, il y a de l'accalmie. Pour preuve, le président togolais a commis, réjoui justement du centre, mais tout en niant ce qui se passe chez lui. C'est pour vous dire que l'élite politique africaine, elle s'en moque de ces populations. En fait. C'est ça la réalité, en fait. Donc on a beau, nous sommes les universitaires, on n'a pas d'élection à passer dans 6 mois, bon, on n'a pas de poste à pouvoir. Donc c'est pour vous dire qu'il y a un décalage réel entre l'officiel, ce qu'on entend des politiques et ce qui se passe concrètement sur le terrain. Quand je pars au centre du Mali, dans les régions nord, et d'entendre également ce qui se passe à Koulouba, ça me fait rigoler en fait. Voilà.
D'accord. Alors, M. Duara, partagez-vous le même avis que M. Tunkara sur le fait que les principaux acteurs ne prennent pas leurs responsabilités?
Et je pense que dire que les principaux acteurs ne prennent pas leurs responsabilités, on ne peut pas au Mali, honnêtement, remettre cela en cause entièrement. Parce que si nous sommes arrivés dans la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, c'est parce que à plusieurs endroits, quand il a fallu prendre des responsabilités, beaucoup de dirigeants n'ont pas répondu à l'appel. Ça, c'est une réalité. Maintenant, il ne faut pas non plus rester qu'à cela. Parce que les lignes ont bougé, les lignes continuent de bouger. Le Mali est un vaste sentier de réforme sur tous les plans. Et il y a énormément de changements qui sont en cours. Je sais aujourd'hui que dans le secteur de la sécurité, pour ce qui concerne la RSS, il y a tout un ensemble, toute une batterie de mesures qui sont en cours de construction et qui doivent être mises en œuvre. L'État a pris un certain nombre de mesures qu'il est en train de mettre en œuvre et qui avance. Mais moi, je suis intéressé par poser quelques questions à monsieur le représentant spécial par rapport au programme. La première question que j'ai à poser, c'est le système tel que décrit va ressortir des données qui vont nous donner des tendances. Donc, c'est de l'ordre du quantitatif en termes d'informations massives et en termes de désagrègement. Maintenant, la question que je me pose, une fois qu'on sait que dans tel secteur, il y a des problèmes, est-ce qu'il y a un autre mécanisme qui permet d'analyser pourquoi y a-t-il ces problèmes? C'est-à-dire en termes d'évolution, de recherche qualitative, pour savoir le pourquoi de ça. Ça, c'est la première question. La seconde question, c'est comment le centre entend s'ouvrir aussi à d'autres acteurs que l'État, notamment la société civile. Est-ce que le centre prévoit de travailler également avec les parlements? Parce que pour éviter un peu ce que mon cher collègue aîné Ali est en train de dire, c'est que pour éviter que l'État ne reste dans le déni de l'évidence, il faut aussi mettre au même niveau d'information les contre-pouvoirs, qui peuvent être soit le Parlement, soit la société civile. Donc ça, c'est un élément important qu'il faut voir. Le troisième élément, c'est que parmi les 5 points que vous avez cités, je n'ai pas entendu parler de l'éducation. Alors que de l'éducation, on va à l'employabilité qui se trouve être l'une des raisons principales aujourd'hui de l'enrôlabilité des jeunes dans ces groupes extrémistes, que ce soit au centre du Mali, au nord ou dans d'autres pays de la CEDEAO. Donc ça, c'est vraiment quelques questions importantes que je voulais vous poser pour voir un peu.
D'accord. Monsieur Touré, vous venez d'entendre les questions, oui.
D'abord, commençons par nous entendre que l'existence du centre n'empêchera pas les problèmes que vit le pays.
Absolument.
Et le centre, de toute façon, qu'il existe, qu'il n'existe pas, il aura ses problèmes.
Absolument.
Il aura le terrorisme, etc. Ça, c'est un. De deux, le centre devient simplement une boîte noire qui va essayer d'avoir un certain nombre d'informations concentrées, mais qui sera mise directement entre les mains des dirigeants. Troisièmement, le problème que vous évoquez maintenant, qui est global, c'est le problème de la gouvernance du pays.
Ouais,
alors, le problème de la gouvernance du pays, c'est au-delà du centre. C'est plus que le centre. Et c'est une affaire de tout le monde. Et je suis heureux que vous souligniez ce problème, parce que ça me permet souvent de donner la précision suivante, parce que on dit, mais vous, la CEDEAO, là, il y a ça, qu'est-ce que vous faites? Mais en revenant à votre propre schéma de réflexion, il faut se rendre compte que, en fait, il y a 3 CEDEAO. Okay. Il y a 3 CEDEAO et chacune de ces CEDEAO devrait prendre ses responsabilités. La première CEDEAO, c'est ce groupe de fonctionnaires qui sont recrutés, qui sont payés à la fin du mois pour aider à produire des documents, à produire des textes, à produire des programmes, des stratégies à la demande des États. C'est leur responsabilité. Une fois qu'ils ont fait ça, ils ont accompli leur mission. Mais vous avez la deuxième CEDEAO. C'est les États qui sont membres. C'est les États qui demandent ces textes. C'est les États qui demandent les programmes. Les fonctionnaires les préparent, le leur soumet. C'est eux qui les analysent, qui les discutent, qui finalement sont d'accord, qui les adoptent. Donc, ces textes-là, ce n'est plus les textes de la CEDEAO, c'est les textes des États. Donc, ça veut dire que c'est les États qui devraient avoir la responsabilité de la mise en œuvre de ces textes, l'application des lois, des règlements, tout ce que vous voulez. Mais il y a une troisième CEDEAO qui, malheureusement, s'ignore. C'est vous et moi, c'est-à-dire le citoyen, qui est concerné par les textes qu'on a adoptés, en son nom et pour lui, mais qui le plus souvent est silencieux. On a un texte sur la libre circulation des biens des personnes.
Tout à fait.
On se plaint que la CEDEAO n'arrive pas à ce que les gens circulent facilement. Mais la CEDEAO de fonctionnaires, ils ont rendu un texte disponible. Les États les ont adoptés, devraient les appliquer. Mais quand vous arrivez à la frontière, si le gendarme a le courage de vous demander 1000 francs, c'est parce que vous donnez. Quand vous donnez, il demande, n'est-ce pas? Ça veut dire quelque part, à un moment donné, il y a des niveaux de responsabilité qui doivent être assumés. Et c'est vrai, vous êtes pressé. Vous voulez aller pour une question importante, à cause de 1000 francs, on vous dit vous ne passez pas. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez donner les 1000 francs, n'est-ce pas? Quand vous donnez les 1000 francs, ça devient un cas de jurisprudence. Et on va en demander. Mais supposons que la société civile s'organise, prend aussi ses responsabilités, met en place un groupe de veille aux frontières. Lorsqu'il y a ce genre d'arnaque, les dénonce, fait du bruit, refuse à cause des textes, etc., ça mènera tout le monde à réfléchir sur la question. Ça va être difficile au début, mais ça pourra changer. Donc c'est vrai, ça c'est un problème de gouvernance qui font que le plus souvent, les responsabilités, vous l'avez dit, ne sont pas assumées à chaque niveau convenu, à temps, etc. Et donc on voit que malgré la présence du centre, on aura toujours ces problèmes parce que les problèmes de gouvernance ne sont pas adéquatement pris en charge. Je dis bien, et là c'est là où je ferai un peu de bémol, il n'y a pas que les dirigeants. Le plus souvent, les dirigeants sont orientés par une demande sociale qui est en dessous. Et qui souvent, cette demande sociale va vers des intérêts beaucoup plus particuliers, personnalisés, tellement pointus, que le gouvernant, dans son souci de bien faire, de s'occuper du citoyen, lui-même dérive et suit. Mais finalement, en termes de responsabilité, on parlera toujours du dirigeant. Mais on n'aura pas vu le citoyen en dessous, qui souvent est la cause.
Monsieur Touré, le temps nous fait un peu défaut, oui. Si, oui. Vous pouvez directement parler un peu de la question de l'éducation, si je ne me trompe pas.
Non, la question de l'éducation est prise en charge directement, vous savez. Et la question de l'éducation est prise en charge dans la mesure où, s'il y a des grèves des étudiants, s'il y a des grèves des enseignants, tout cela est pris en compte. Mais on doit analyser, vous avez demandé, est-ce qu'on fait l'analyse, etc. Oui. C'est pour ça qu'il y a des experts par domaine. La question n'est pas seulement de collecter des informations, mais après c'est de savoir le pourquoi de cela. Et lorsque le comité statutaire se réunit, c'est qu'on doit approfondir la réflexion sur pourquoi en est-on arrivé là. Qu'est-ce qui a été la cause? Quelles sont les solutions possibles? C'est pour cela, et je vais peut-être terminer là-dessus, que dans le comité statutaire, il n'y a pas que les ministres dans ce domaine, mais la CEDEAO demande que l'opposition soit représentée, que la société civile soit représentée, et que ce que nous appelons les sages, parce que la CEDEAO a un collectif de sages choisis au niveau de chacun des pays, qu'on utilise souvent pour des bons offices, etc., doivent également faire partie. De telle sorte qu'au moment où on analyse le problème, les différents pans de la société sont impliqués. Et c'est là où chacun doit donner de la voix lorsqu'il est nécessaire. La société civile doit interpeller les ministres qui sont là, des responsabilités à assumer, les mesures à prendre. Donc c'est vrai que ça ne va pas être si fermé que ça, oui, au niveau de la collecte de l'information, au niveau du traitement, mais au niveau de l'analyse et des prises de décision, le comité est beaucoup plus élargi. Ce n'est pas seulement au niveau des experts.
D'accord. Alors, M. Duala, êtes-vous satisfait des réponses de M. Touré par rapport à vos questions?
Bon, c'est intéressant. Oui. C'est intéressant de constater que certains points sont pris en compte. Au niveau de l'éducation, je constate que c'est beaucoup plus axé sur, comme il l'a dit, les indicateurs de déstabilisation quand il y a des grèves. Mais en fait, il est bon aussi, même si c'est de façon ponctuelle, de faire une analyse plus approfondie. Par exemple, quand on regarde aujourd'hui la problématique de l'emploi, de l'employabilité, même pas de l'emploi, mais de l'employabilité des produits de l'éducation, il est important d'examiner la question pour voir pour quelles raisons aujourd'hui on a cette difficulté d'employabilité. Pour que ce même centre-là, dans la continuité de sa logique, puisse contribuer à renforcer la performance du système existant. Donc ça, c'est un élément qui est aussi important. Quoi,
voilà. Monsieur Tungara, vous avez à peu près 30 secondes pour...
Très rapidement, il faudra que la CEDAO se réconcilie justement avec ces populations. Je crois qu'il y a vraiment un décalage total entre ces deux univers. Monsieur Touré a mis en évidence les trois grandes formes, enfin, ou les trois grandes catégories de la CEDAO. Je crois que les deux catégories jouent pleinement leur rôle. Pour preuve, il y a eu tellement de coups d'État, lesquels coups d'État ont été quand même orchestrés par ces deux catégories. Mais sauf qu'une fois l'élite politique est aux commandes, elle peine à les entendre. Et moi, je ne veux pas responsabiliser un conducteur du taxi quant à la baisse des niveaux des étudiants. Je crois que c'est une insulte à son égard. Je n'ai pas à responsabiliser un journaliste quant à la recrudescence de l'insécurité au centre. Vous voyez, c'est pour vous dire qu'au bout du tunnel, l'élite politique elle est à revoir justement ses lunettes.
D'accord. Merci beaucoup. Cela m'a fait à ce débat. Merci à nos invités. Cheikh Kabudou Touré, représentant de la CEDAO au Mali, Ali Tunkara, sociologue, Mamadou Diouara, sociologue. C'était une présentation de Fatmata Togola, la mise en onde de Philippe Dambélé. La régie vidéo est assurée par Mamadou Ouattara. C'est une réalisation de Ibrahim Diallo et une coordination de Mohamedou Touré.
Le grand dialogue.
Siki Kafoba.
Edouani Ouamakaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halo Demandé.
Chenne Berry. Siki Kafoba.
Le grand dialogue.